Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Louis Kemayou, je commence par vous. Les premières tendances telles que rapportées par des médias togolais comme New World TV montrent que l'Union pour la République, ou Unir, ce parti créé en 2012 par le président Faure Gnassingbé, caracole en tête de ces élections législatives et régionales. Comment expliquez-vous ce qui est d'ores et déjà décrit comme une débâcle des partis de l'opposition dont des poids lourds n'ont même pas pu se faire élire malgré le tollé provoqué par la nouvelle constitution?
Je crois que l'opposition togolaise aujourd'hui en est à un stade où elle a véritablement besoin d'une introspection pour savoir quel est le mal dont elle souffre et comment en sortir. Il n'est pas question ici de dire que tous les partis d'opposition devraient se mettre ensemble pour être capables de battre le parti au pouvoir. L'idée, c'est de savoir comment ces partis peuvent s'organiser pour ne pas être absents des rendez-vous les plus importants afin que leur absence ne leur soit pas préjudiciable. Cette absence leur a déjà été préjudiciable après 1992. Elle leur est encore plus préjudiciable après l'élection de 2018. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale qui a voté le passage à la 5e République n'avait pratiquement pas tous les opposants qui aujourd'hui sont dans la rue vent debout contre la réforme constitutionnelle. Donc, du fait de ces choix qui sont parfois discutables, on se retrouve avec une opposition qui est dans son droit le plus légitime, mais qui, par moments, pêche, soit par des divisions sans fin, soit par une haine en son sein, qui fait que les plus forts sont parfois dégradés, et il n'y en a plus aucun qui est fort. Et donc, au bout du compte, cela profite au parti au pouvoir, au parti Unir, qui reste très discipliné, et dont les militants, surtout, restent très disciplinés, et sont récompensés, puisque dans la proclamation des résultats, leur parti est en tête. Ils n'ont pas estimé que c'était gagné à l'avance, comme certains l'ont pensé ce jour de vote. Ils sont allés voter pour leur candidat, et je ne suis pas surpris que leur candidat soit en tête et que leur parti aussi le soit.
Revenons sur cette réforme constitutionnelle validée par les députés le 19 avril dernier, c'est-à-dire 10 jours avant le double scrutin, consacrant donc un régime parlementaire et non plus présidentiel. Samuel Gembok, que signifie cette nouvelle constitution pour le Togo, surtout du point de vue politique? Et est-ce un système qui existe ailleurs en Afrique?
Ce qu'il faut déjà relever, c'est que le Togo marque là un point très important dans le processus politique dans le pays. En sciences politiques, il y a plusieurs régimes politiques. Quand on passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, cela caractérise un certain nombre de choses. La première chose, c'est que le régime parlementaire consacre la disparition totale du suffrage universel direct, c'est-à-dire que les populations ne vont plus directement élire le président de la République. Cette mission est confiée aux parlementaires. La deuxième chose, c'est que quand on passe à un régime parlementaire, il y a l'établissement d'un conseil ou d'un cabinet ministériel. Et là, il y a un chef de conseil ministériel qui répond directement devant le Parlement. La troisième chose, c'est qu'il y a un lieu et place de la séparation des pouvoirs dans le cadre d'un régime présidentiel. Il y a plutôt l'équilibre, l'établissement d'un équilibre entre les pouvoirs, ceux du Conseil, du cabinet ministériel et du Parlement. Donc, voilà en gros les éléments constitutifs d'un régime parlementaire. Maintenant, est-ce que cela est intéressant ou pas? Tout dépendra des dynamiques endogènes, des dynamiques politiques endogènes et la responsabilité des acteurs en concurrence ou en compétition. Il faudrait peut-être que l'opposition puisse mieux s'organiser, comme le disait M. Kemayou il y a un instant. Il faut que l'opposition s'organise et que la responsabilité des autorités politiques soit clairement établie pour une seule chose. D'abord, la bonne gouvernance et le bien-être des populations.
À l'étranger, seul le Bureau des Affaires africaines du département d'État américain s'est dit inquiet de ce changement de constitution et a demandé au gouvernement de permettre un débat ouvert et informé, de garantir l'inclusivité et la transparence et de respecter le droit de réunion pacifique. Henri Nzuzi, pourquoi y a-t-il peu de réactions continentales, voire internationales, face à cette révision constitutionnelle?
Je crois que depuis 2022, on a assisté à une véritable bascule géopolitique et stratégique. On a vu les pays africains voter en toute leur âme et conscience et sans pression aucune aux Nations Unies, notamment lors de l'opération spéciale de la Russie. On a vu un certain nombre de pays africains s'affranchir de la tutelle française, notamment au Sahel. Et on voit aujourd'hui des pays africains qui mènent des réformes constitutionnelles qui, c'est vrai, donnent lieu à très peu de réactions pour la simple et bonne raison que nous avons véritablement changé d'époque. Et je pense que c'est ce que doivent comprendre les Occidentaux. Alors évidemment, ces réformes ne sont pas forcément idéales ou en tout cas exemplaires, mais elles ont au moins le mérite de dépoussiérer des constitutions qui, pour la plupart, ont été élaborées, si je prends l'exemple du Togo, depuis 1960 que ce pays est indépendant, aujourd'hui, il appartient aux Togolais seuls et à eux seuls de pouvoir juger de l'opportunité, de la pérennité, pour ne pas dire de voilà la consistance d'un dispositif qui peut effectivement faire réagir, mais qui, surtout, traduit de vieux réflexes conservateurs. Et je pense évidemment à cette réaction du bureau que vous venez de mentionner. Je pense que nous devons cesser de regarder systématiquement vers l'Occident qui, lorsqu'il s'agit de réaction, mais plutôt d'agir en son âme et conscience et surtout de se choisir librement des dispositifs qui peuvent aller dans le sens, je dirais, d'une amélioration qualitative des situations internes des pays concernés.
En tout cas, l'opposition togolaise, elle, parle de coup d'État institutionnel, car il s'agit pour elle d'une constitution taillée sur mesure pour maintenir à la tête du pays Faure Gnassingbé, héritier d'une dynastie qui dirige le Togo depuis plus d'un demi-siècle, on l'a entendu. Mais pour le parti Unir, la réforme rend les instances du pouvoir plus représentatives. Lui, comme Ayou, brièvement, les élections du 29 avril ont-elles finalement été comme une sorte de référendum en faveur de cette nouvelle loi fondamentale?
La volonté de l'opposition au Togo était de transformer ce double scrutin régional et législatif en référendum contre la réforme de la Constitution. Mais il est évident que au stade actuel des choses, c'est un pari qui n'a pas été remporté ni par l'opposition, ni par les personnes qui ne souhaitaient pas que cette réforme soit mise en place. Ce qu'il faut dire pour être tout à fait factuel, c'est que quand cette réforme a été effectuée, il n'était pas question de dire que si le parti uniquement de Faure Gnassingbé gagne la majorité à l'Assemblée nationale ou si une coalition de partis autour de lui gagne, il sera Premier ministre et il dirigera autant qu'il le souhaitera. Les chefs de parti sont sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que l'on soit Jean-Pierre Fabre, que l'on soit de n'importe quel parti, si votre parti a la majorité, vous êtes dans la même position aujourd'hui que le président du parti Unir, c'est-à-dire en position de devenir le chef du gouvernement, le président du Conseil des ministres qui a été mis en place. Et ça, vous le serez aussi longtemps que vous garderez votre majorité. De l'autre côté, ce vote est effectué par les députés. De l'autre côté, il y a un président de la République qui a été vidé de presque tous les pouvoirs dont il disposait et qui sera élu par le Parlement réuni en Congrès. Là, il a un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est uniquement Unir ou que ça doit être le président Faure. C'est ouvert pour tout le monde. Donc, pour le moment, étant donné que le président Faure n'a pas démissionné de la présidence du parti Unir, si son parti gagne la majorité à l'Assemblée nationale, il est à peu près certain qu'il deviendra le nouveau président du Conseil des ministres du Togo.
À ses détracteurs qui l'accusent d'autoritarisme, Faure Gnassingbé, peu amateur de bains de foule et relativement avare de sa parole, répond à l'AFP ne pas se sentir l'âme d'un dictateur. Surnommé jeune doyen par le président ivoirien Alassane Ouattara, Faure Gnassingbé s'est imposé peu à peu comme médiateur dans les différentes crises politiques qui agitent l'Afrique de l'Ouest depuis quelques années. Samuel Genbok, a-t-il les qualités requises pour incarner ce rôle de médiateur régional? Ses efforts ont-ils porté leurs fruits?
Je pense que le président Faure Gnassingbé bénéficie de la continuité de l'État depuis les indépendances. Et donc, fort de cette expérience, il peut peser dans les négociations internationales africaines. Dans les médiations, bien évidemment, il peut partir de l'exemple de la stabilité de son pays pour amener les parties prenantes à la table de négociation et partir aussi de son expérience personnelle pour asseoir l'équilibre que l'on peut observer dans ce pays, bien que les problématiques liées à la pauvreté ou au sous-développement restent d'actualité. Mais on observe quand même qu'il y a une continuité de l'État qui peut être bénéfique ou transposable dans des pays qui sont littéralement divisés.
Fornia Simbe multiplie également les efforts pour se rapprocher du monde anglophone, même sans liens historiques avec le Royaume-Uni. Le Togo a intégré le Commonwealth en 2022 et fait de l'œil à Washington pour bénéficier de programmes d'aide au développement. Henri Nzuzi, quelle lecture faites-vous de ce rapprochement de Lomé avec l'Occident anglophone?
Mais tout cela procède évidemment de la bascule géopolitique que j'évoquais et que l'on observe depuis maintenant 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans une forme de multi-alignement. Il n'est plus question de se ranger derrière un seul bloc. Les pays agissent en fonction de leurs intérêts. Je pense aux pays africains. C'est une très bonne chose que de pouvoir se choisir librement ses alliés. Certaines puissances tutélaires ou historiques occidentales en ont fait les frais récemment. Je pense que vous pouvez suivre mon regard. Aujourd'hui, il est tout à fait normal que les pays puissent se déterminer en fonction de leurs propres intérêts et, par conséquent, se positionner dans, je dirais, cette nouvelle réalité, cette nouvelle donne géopolitique qui, je pense, exhorte ou incite ces États à pouvoir nouer des alliances qui vont effectivement créer les conditions à la fois d'un développement durable, mais surtout ancrer durablement leur appartenance à la communauté internationale.
Merci, chers invités, de rester avec nous. Je vous propose maintenant des extraits de 2 commentaires publiés sur la page Facebook de VOA Afrique. Christ Le Prestige Conan d'Abidjan, Côte d'Ivoire. En Afrique, on voit rarement des partis du président au pouvoir se retrouver en minorité à l'Assemblée nationale. Arrêtons ce débat. Si la majorité a suivi la voie du oui, c'est qu'elle s'est enterrée elle-même. Et l'Asga Sec du Dakar au Sénégal, les acquis démocratiques sont renforcés quand c'est le peuple togolais qui décide librement de son avenir immédiat. Et voilà pour ces 2 commentaires Facebook tirés de la page Facebook de VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, la suite du Washington Forum, ce sera après cette courte pause.
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous,
c'est vous et nous.
Restez de retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 2 mai 2024. Les Togolais ont voté lundi dernier pour élire 113 députés contre 91 en 2018. Quant aux élections régionales, elles ont été les premières dans ce pays divisé en 5 régions avec les conseillers municipaux. Les 179 conseillers régionaux éliront à leur tour les sénateurs. Le Sénat a été institué par la révision constitutionnelle de 2002, mais n'a jamais été mise en place et les régionales vont donc permettre de l'installer. Et nous retrouvons nos invités, toujours par le truchement de Skype, Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine et directeur de la chaîne de télévision New World Economy à Lomé, d'où il nous rejoint, de Kolwezi en République démocratique du Congo, Henri Désiré Nzuzi, analyste politique et consultant en relations internationales, et depuis Yaoundé, docteur Samuel Gembok, enseignant permanent à l'IRIC, à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Il est également directeur général de Thinking Africa Cameroun. Louis Kemayou, quels sont selon vous les grands chantiers qui attendent le gouvernement qui va être issu de ces élections au Togo?
Je crois que le premier grand chantier va être, parce que de mon point de vue, la loi pour le passage à la 5e République sera proclamé assez rapidement. Le président avait 15 jours pour le faire, ce délai est en train d'expirer, et il restera une année pour mettre en place l'ensemble des institutions prévues par la nouvelle Constitution. Et donc, il faudrait travailler à cela, le gouvernement, le Parlement et tous les autres acteurs qui entrent en ligne de compte de toutes ces réformes-là. Et donc, je crois que pour le moment, le véritable chantier auquel devra s'attaquer, au-delà de la vie chère, au-delà des affaires courantes, c'est la mise en place de ces nouvelles institutions qui sont véritablement une priorité. Et le délai n'est pas éternel. Il n'y a qu'un an aujourd'hui pour mettre en place toutes ces institutions.
Et voilà, lui que Mayou nous l'apprend, le Togo se dirige vers la 5e République. Alors les Togolais, dont près de 60% moins de 25 ans, vivent toujours dans une situation de grand dénuement matériel, notamment dans les régions rurales, même si le taux de pauvreté a diminué de 60% en 2006 à 40% en 2023, d'après la Banque mondiale. Henri Nzuzi, le pays peut-il mieux faire pour améliorer la vie de ses citoyens, dont ces jeunes en quête d'emploi ?
Écoutez, l'histoire nous le dira. Il est toutefois important de relever que depuis quelque temps, les indicateurs économiques togolais montrent que cette même économie a fait montre de résilience et que par conséquent va dans la bonne direction. Pour un pays qui se situe au niveau de la 5e place au niveau mondial en tant que producteur de phosphate, on a là effectivement un ressort qui permet de constituer un levier de croissance non négligeable. Vous parliez des jeunes à l'instant. Effectivement, il y a une très très forte attente et pour cause, il s'agit du plus précieux des capitaux, le capital humain. Et de ce point de vue-là, eh bien, le parti au pouvoir, en tout cas celui qui aspire à être reconduit, aura certainement à cœur de pouvoir mettre en place des dispositifs qui puissent accroître à la fois, je dirais, le renforcement de capacité de cette jeunesse, mais surtout lui redonner de la perspective pour pouvoir effectivement créer les conditions d'un développement durable et qui soit donc par conséquent profitable au plus grand nombre.
Depuis quelques années, comme ses voisins, le Togo est confronté à la menace djihadiste avec des attaques régulières dans le nord. Samuel Gembok, vous qui êtes également expert en matière de sécurité, le pays peut-il endiguer le danger que représentent ces groupes terroristes qui étendent leurs tentacules ?
Je pense que dans tous les pays du monde, aucun pays à lui tout seul peut parvenir à endiguer ou à contenir la menace terroriste. Il faut une stratégie globale, il faut une approche régionale au niveau de la CDAO. Le Togo fait déjà beaucoup en termes de professionnalisation de son armée. Je rappelais il y a un instant la solidité et la continuité de l'État depuis les indépendances et donc la capacité à assurer la stabilité et la sécurité dans le pays n'est plus à questionner. Seulement, la menace étant diffuse, il faut que d'autres paramètres soient pris en compte. Mon collègue, il y a un instant, parlait de la pauvreté, des indicateurs macroéconomiques qui méritent d'être améliorés. Cela permettra certainement de réduire les poches de pauvreté qui existent dans le pays. Et je pense que c'est cette pauvreté qui fait le lit de l'avancée et de la montée en puissance du terrorisme dans certaines localités. Et encore une fois, le Togo tout seul, le gouvernement togolais tout seul, ne pourra pas endiguer cette menace terroriste à partir du moment où d'autres pays voisins sont encore en situation de précarité.
Entre parenthèses, demain vendredi 3 mai marquera la journée mondiale de la liberté de la presse, ce qui m'amène à vous poser cette question, lui comme Ayou, pourquoi la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo a temporairement suspendu les accréditations pour les médias étrangers voulant venir couvrir ces élections ?
Elle l'a suspendu non pas pour punir les journalistes et empêcher qu'ils fassent leur travail, puisque vous l'avez constaté, que ce soit les journalistes de VOA qui sont sur place ou bien ceux de France 24, France Média Monde en général, tous ceux qui sont déjà sur place font leur travail sans aucun problème. En revanche, il y a eu un groupe de journalistes qui sont entrés de façon quasi illégale et n'ont pas suivi une procédure qui était celle prévue. Le Togo est un pays, même si on ne le dit pas beaucoup, qui est sous état d'urgence à cause de la situation sécuritaire dans la partie septentrionale du pays. Et même si les frontières sont ouvertes, elles le sont sous la réserve d'un certain nombre de contrôles et d'un certain nombre de règles qui doivent être respectées. Quand celles-ci ont été enfreintes, obliger tout le monde à les respecter. Il y a eu une fermeture temporaire des procédures d'accréditation, mais elles seront levées de toute façon. Et ceux qui sont là, encore une fois, continuent de faire leur travail tranquillement.
Je profite de l'occasion pour signaler que jeudi prochain, Washington Forum va être consacré à la liberté de la presse. Henri Nzuzi, puisque le Togo veut faire partie d'importants blocs de coopération, que peut faire la communauté internationale pour aider ce pays à consolider ce que Lomé décrit comme ses acquis démocratiques?
Alors moi je serais tenté de dire que peuvent faire les Africains pour justement aider le Togo à consolider ses acquis. Je pense qu'une des leçons que nous pouvons tirer de ce qui se passe depuis 2 ans globalement, c'est que trop d'interférences occidentales parfois va dans un sens qui peut s'avérer contre-productif, notamment au niveau des opinions publiques nationales. Je pense qu'il est important que le sentiment de réappropriation puisse perdurer, et de ce point de vue-là, je pense que des paradigmes nouveaux doivent être mis en place, notamment entre Africains. Ce n'est pas toujours parfait ni idéal. On pense évidemment à la CEDEAO qui n'avait pas hésité à sanctionner certains pays ayant fait l'objet d'un coup d'État. Mais je pense que cette réappropriation et cette manière d'accompagner le processus devraient d'abord commencer sur le continent africain, par les Africains et pour les Africains.
Samuel Gembock, en quelques mots, quels sont, selon vous, les plus grands défis que le Togo doit relever après ces élections législatives et régionales?
Je pense que parmi les défis, on a déjà cité le défi sécuritaire lié à la menace terroriste. Il y a des efforts qui doivent être poursuivis dans la diversification du tissu économique. Il va falloir suivre et parachever la création des institutions issues de cette constitution et en même temps œuvrer à la consolidation de ces institutions. Œuvrer également à la consolidation des acquis en termes de la continuité de l'État, de la continuité de l'administration. Il va falloir que l'État et les responsables politiques qui vont prendre les rênes du pouvoir puissent se montrer à la hauteur des grands enjeux, à la fois nationaux, mais aussi internationaux.
Lui, Komayou, comment se déroule ce dépouillement et comment vont se faire les résultats et comment cette annonce va être faite?
Pour le moment, il y a deux niveaux de lecture. Il y a le niveau de chacune des villes parce que la commission nationale électorale indépendante, elle est divisée en commission électorale locale au niveau des villes et des préfectures. C'est à ce niveau-là que les publications se font. Elles sont validées par le tribunal et c'est après cette validation que c'est intégré aux résultats nationaux. Et donc, on a dit qu'il y avait 6 jours pour faire le tour des élections. Les commissions électorales locales sont en train de faire remonter leurs chiffres. Et donc, je crois que le délai sera tenu. Et puis, de toute façon, la frénésie avec laquelle les uns et les autres attendent les résultats fait que, de toute façon, ils seront faits avec le plus grand sérieux. Et même s'il y a des contestations, on ne découvrira pas l'Amérique. C'est quelque chose auquel on est habitué. Je voudrais juste que, comme les observateurs l'ont dit, l'ampleur des dysfonctionnements, parce que c'est quand même une œuvre humaine, que l'ampleur de ces dysfonctionnements ne soit pas trop importante pour ne pas entacher la crédibilité du scrutin, du double scrutin.
Depuis mardi soir, je suis ce que la commission électorale elle-même a appelé la nuit électorale. Est-ce une première au Togo?
Oui, c'est une très grande première parce que jusqu'à présent, les gens suivaient les résultats au niveau de leur bureau de vote, mais ils ne savaient pas ce qui se passait plus loin. Ils le savaient, ils l'apprenaient à travers leur formation politique ou à travers le bouche à oreille. Là, aujourd'hui, il y a une décision de faire que Any World et la télévision nationale, la TVT, diffusent de façon continue et de façon transparente surtout les résultats tels qu'ils arrivent.
Voilà ce que je suis d'ailleurs sur New World TV. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos 3 invités, Louis Magloire Kemanyu, Henri Désiré Nzuzi et Samuel Gembock. Un clin d'œil également à toutes nos radios et télé partenaires. Et bien évidemment, un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Un nouveau rendez-vous dès jeudi prochain. Jacques Aristide de Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.